pour toutes les générations, conçu et réalisé par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Bonjour, le soleil est là et notre équipe rayonne du plaisir de partager avec vous cette 13e émission. Eh oui, Josie et Jeg nous invitent à prendre la plume, ce qu'a fait Alex en nous confiant son récit marathon. Laissez-vous gagner par le sourire et les rires d'Annie, Alex, Colette et Christiane. Laissez-vous attendrir par le bonheur de Margaret, l'hommage vibrant à Jean-Pierre Bacri de Christiane. Et enfin, nous resterons fidèles à notre fable de La Fontaine. Enfin, presque.
Suite à la dernière rubrique « Les bienfaits de l'écriture », dont nous avons discuté avec Jeg d'écrire,
ok. Josie, tu parles d'écriture qui est liée directement au cerveau, à la mémoire.
Oui, moi j'adore écrire.
Et ça me rappelle ce que me disait mon bon maître Antoine de la Garanderie, qui parlait de la restitution scriptomotrice, qui est très très importante pour la réalisation de tout ce qu'on tient dans notre mémoire, et même en termes de libération.
Où il est le temps où on écrivait à la plume.
Et alors pour moi, c'était une grande souffrance hein, quand même, hein, parce que je suis gaucher, j'écris à l'envers.
Était loin, en fait.
Et l'encrier était de l'autre côté. Ouais. Et j'écrivais par le haut, donc j'étais obligé de mettre un buvard pour ne pas tâcher ce que je faisais. Donc je n'arrivais pas à lire ce que j'écrivais. Ça a été une grande torture, et vive le stylo à billes. Une écriture très physique.
Il y en a qui continuent à écrire, hein, avec qui aiment la jolie écriture.
Oui, c'est de la calligraphie, Elle est nécessaire parce que on dirait qu'on est branché directement à notre cerveau quand on écrit à la main, ce qui est moins le cas du clavier.
On tape sur des lettres, que là, en écrivant à la main.
On les forme.
Voilà. De toute façon, j'écris tout, même les prénoms des personnes, parce que j'ai du mal à retenir les prénoms. Donc j'écris les prénoms sur un tableau que j'ai. Et tout ce que je dois me rappeler, je l'écris. J'écris tout, comme ça je vais voir. Je vais le voir, et à force de le voir, ça rentre dans la tête.
Et pour écrire, il faut prendre son temps.
Eh oui, mais on ne peut pas toujours avoir le temps.
Ouais. Ah ben, il faut le prendre. C'est important de prendre le temps. Personnellement, j'ai horreur de faire des fautes. Si je ne sais pas écrire un mot, je vais dans le dico.
C'est bien. Qu'est-ce que c'est pour toi, Jeg?
Avant l'écriture, moi j'étais baigné, j'étais cerné de livres parce que mon père et ma mère lisaient beaucoup. Et mon père me racontait ses livres. Je me souviens très bien qu'il m'avait raconté par exemple Pierrot, mon ami de Raymond Queneau, et ça me plaisait énormément. Et donc je voulais absolument comprendre ce qu'il lisait. Et à l'école, quand on a commencé à apprendre l'alphabet et tout ça, ça me plaisait. J'adorais ça et du coup je me suis également mis, comme j'avais beaucoup d'imagination, à écrire mes petites histoires, soit avec des dessins, soit sans dessins, mais j'écrivais des histoires. Et quand Josie a parlé des bienfaits de l'écriture à plein de niveaux, et ça m'a beaucoup intéressé, effectivement.
Pour l'écriture, tu disais choses incroyables que les auditeurs ne savent pas.
Oui.
Tu écris à la main, sur une feuille de papier, tes rubriques.
J'écris mes rubriques avec un stylo, voilà, tout en m'appliquant. En fait, je m'applique pour après bien le lire. Mais disons que le fait de l'écrire, ça fait travailler la mémoire. Ça me fait rappeler. Et puis ça me détend aussi, c'est une détente. Tout le temps qu'on écrit, là, on pense pas à autre chose. Puis voilà, on est dans ce qu'on fait. C'est plaisant. Une fois fini, je me sens sereine.
Tranquille.
Je suis fière de moi. Voilà.
C'est comme ça, voilà. Que s'écrivent donc les chroniques de Josie?
J'ai encore perdu ton amour, c'est vrai. Mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, C'est pas croyable comme tout disparaît. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait.
Texte original. J'étais alors chargé d'affaires, donc je travaillais beaucoup et à une heure de route de la maison, le double aux heures de pointe. Je vous laisse imaginer ma dose quotidienne de stress et du besoin impérieux de l'évacuer. Pour ceux, mes carrières en sport collectif étant closes, je me tournais vers le jogging, présentant le meilleur rapport effort temps liberté. Jusqu'où la recherche d'efficacité ne va-t-elle pas se nicher? Et pour être sûr que je tiendrais bon, je m'inscrivais à plusieurs courses par an. Courses où je retrouvais des amis ou collègues ayant opté pour le même défouloir. Au moment de mon histoire, notre choix s'était arrêté sur le marathon de New York. Je travaillais alors sur le site du CNES qui longe à Toulouse le canal du Midi. Trois fois par semaine, je m'y rendais, entre midi et deux, après et avant un passage éclair dans les vestiaires du CNES, vestiaires situés idéalement. Le long du canal, les chemins de halage sont le refuge des joggeurs. Un coureur attira à plusieurs reprises mon attention. Il courait, penché en avant, et les deux mains paumes tournées vers le ciel comme s'il portait un plateau imaginaire à chaque main. À chaque foulée, bien voûté, il avançait une main bien loin devant. Je me dis à chacun sa foulée et je n'y pensais plus. Le grand jour, nous étions parqués dans le premier des cinq quartiers new-yorkais traversés, à savoir Staten Island. Au départ de la course, on quitte bien vite cette île par le pont de Verrazzano, dont la photo aérienne est célèbre, pour rejoindre Brooklyn, le Queens, puis le Bronx et enfin Manhattan. Durant ces courses de plus de 3 heures, l'on a le temps d'admirer le paysage et les gens autour. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir devant moi un coureur voûté à la foulée de garçons de café. Je me portai à sa hauteur pour lui demander c'est quand même un peu plus difficile qu'au bord du canal du Midi, non ? Interloqué, il me regarda. C'était bien lui. Il me demanda tout en courant si on se connaissait. Je lui répondis que non, mais que je l'avais remarqué lors de mes entraînements toulousains. En courant, on a discuté gentiment. C'était un prof de la fac de Rangueil, voisine du canal. Puis, chacun a repris son chemin à son allure. Je dois reconnaître que les Américains aiment le sport et m'ont séduit, avec plus de spectateurs que les 30 000 coureurs d'alors. Surtout à Manhattan, où deux, trois rangées de spectateurs de chaque côté tapent sur les barrières pour rythmer la foulée. J'aimerais bien en voir autant lors du marathon de Paris. À l'arrivée, nous avons été pris en charge par les nombreux bénévoles bien efficaces. Et le soir, on s'est retrouvés dans un restaurant new-yorkais où les chants de rugby du Sud-Ouest ont animé la salle pour le plus grand plaisir des autres clients. La France était alors, en 1998, et j'espère encore, très appréciée dans cette grande ville, et le contingent français est le plus nombreux des coureurs étrangers. Eh oui, à l'opposé de notre image de champion de bistrot. De retour à Toulouse, je repris mes entraînements, et quelques jours plus tard, je tombai sur le coureur rencontré là-bas, avec qui nous fîmes plus ample connaissance. J'appris alors que, bien que plus âgé que moi, il m'avait mis 10 minutes dans la vue à l'arrivée. Chapeau. La semaine suivante, nous avions un chantier le long des chemins de halage du canal du Midi. Et je racontais mon épopée américaine à deux collègues. À côté de nous passaient les joggeurs. Je venais de finir mon récit lorsque nous vîmes arriver le coureur, prof, garçon de café, que mes interlocuteurs reconnurent aussitôt. Le temps de tourner la tête, j'ai pu apercevoir dans son regard l'étonnement devant trois personnes, un peu plus loin, exploser dans le même éclat de rire. Voilà pourquoi ces souvenirs sont ancrés dans ma mémoire. Et le passage à l'écriture très facile. Tout est là, il n'y a qu'à laisser courir le stylo sur le papier. Avant de mettre tout ça en ordre et de laisser l'ordinateur donner un dernier coup de peigne au texte. Rire. Ce qui me fait le plus rire. En fait, il s'agit d'un sketch archi-connu des inconnus, à savoir Télémagouille. Et plus spécialement, le moment où l'animateur propose le jeu des couples célèbres à Véronique, joué ici par Didier Bourdon. À la fin du sketch, les pleurs de Véronique, plus l'énervement de l'animateur, immobilisent le jeu. Cela crée un blocage gênant dans cette émission normalement divertissante, avec des tensions dans tous les sens. Le jeu de tous les acteurs est excellent. La première vision est un régal, car chacun de nous devine les réponses et se gosse gentiment de cette pauvre Véronique, mais l'animateur lui soumet pratiquement coup sur coup deux questions qui ont la même réponse. L'une réclamée, l'autre sanctionnée. Ainsi, on a droit à une deuxième couche de comique. L'animateur ayant réfuté la première réponse hardie, puis réclamé hardie dans un deuxième temps, donne à Véronique deux ordres complètement opposés. Cette situation offre à l'acteur Didier Bourdon l'opportunité de jouer merveilleusement cette scène d'une personne tout à fait perdue, prise au piège, désemparée. Quand je revois ce sketch, le rire est toujours là. Non pas de la chute que l'on connaît désormais, mais grâce au superbe jeu des acteurs dont on ne se lasse jamais.
Merci à tous, merci à toutes. Merci surtout de votre fidélité à notre télémagouille quotidien.
Alors, Véronique, on ne va pas se disputer maintenant. Écoutez bien, on va jouer tous les deux. Vous allez voir, le jeu est très simple puisqu'il s'agit du jeu du couple. Vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent. Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre. Vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est enfantin, on peut y aller?
Vous pouvez répéter la question?
Mais non, c'est... je vous donne un exemple, si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy.
Hardy.
Voilà. Le joli couple célèbre avec Véronique, c'est parti tout de suite. Top chrono, Roméo et...
Hardy. C'est encore plus facile.
J'ai dit Laurel et... Ben oui, c'est Hardy, Laurel et Hardy. Je vous dis Roméo et... C'est Juliette. Pas évident quand même. C'est pas grave, on continue, on reprend tout de suite. Top chrono, Jacques Dutronc et Françoise.
Juliette.
Mais non, Hardy. C'est pas grave, on continue, c'est pas grave, on oublie. On continue dans la joie, la gaieté, la folie, la bonne humeur. Avec les magouilles, on en a.
Là, les fous.
Voilà.
J'aime le rire. Rire. J'ai une nette préférence pour les fous rires parce qu'ils sont spontanés, incontrôlables,
et communicatif. C'est tel un feu d'artifice qui crépite dans tout notre corps, puis nous laisse dans une douce béatitude. J'ai le souvenir d'un fou rire mémorable. C'était lors de vacances avec mes beaux-parents. Nous marchions sur un chemin de corniche en Bretagne. Ma belle-mère a trébuché en raison d'un dénivelé. En perdant l'équilibre, elle a fait une sorte de prise de judo à mon beau-père en lui bloquant les jambes et en le tirant au sol. Celui-ci est tombé le premier et ma belle-mère a atterri sur lui en croix. Le plus cocasse, c'est que ma belle-mère, vexée, criait à mon beau-père « Mais lève-toi donc !» et lui répondait « Mais je peux pas tuer sur moi !» Je dois avouer que la scène était tellement hilarante que nous avons d'abord ri avant de secourir les deux accidentés qui s'en sont sortis heureusement, seulement avec des petites contusions. Durant tout le séjour, nous entendions chaque soir ma belle-mère rire encore de ses exploits sportifs. 20 ans après, nous rions toujours autant à l'évocation de cette chute mémorable. S'esclaffer. J'aime rire. J'aime le rire.
J'aime les rires, le fou rire et les éclats.
Les gloussements, les miaulements.
Les épaules qui se secouent, les ricanements, les reniflements.
J'aime m'esclaffer.
Faire.
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 Aïe, 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 aïe. Faire.
Oh non, oh non, non. Faire.
Oh là là. Oh, fou. Oh. C'est ce qu'elle a fait, c'est partir dans tous les sens, se taper sur les cuisses.
Taper les pieds, du poing sur la table.
Taper sur son voisin. Se tenir les côtes parce que ça fait mal.
Avoir des crampes, des muscles qui se tétanisent.
Pleurer, se moucher, aller jusqu'à se rouler par terre. S'estrasser.
Sauter dans les flaques de rire, hurler, mourir ou presque.
S'esclaffer, c'est se mettre dans tous ses états.
Se mettre minable, se faire du bien.
Exploser et en redemander.
S'esclaffer, c'est mal élevé.
Mais Dieu que c'est bon.
C'était S'esclaffer, un poème d'Anne Sylvestre.
Texte original.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là.
Vers la fin du mois de janvier, il y a quelques semaines, j'ai réservé 2 vols aller-retour pour Vienne en Autriche. En fait, les 2 vols d'octobre 2020 avaient été annulés pour cause Covid-19. Pour simplifier ce qui s'est passé, suite à cette annulation, on nous a donné un bon d'achat pour une valeur du prix des vols, une somme non négligeable, valable pendant toute l'année 2021, mais il fallait réserver les vols avant le 31 janvier 2021. Je réserve donc les 2 allers-retours pour octobre 2021 en me disant que l'on devrait avoir trouvé une solution au coronavirus d'ici là. Je croise les doigts. Tout excité, je préviens mon fils des détails du déplacement.
« Ne t'emballe pas !»
dit mon mari.
« Tu serais trop déçu si finalement on ne peut pas y aller. Je te connais comme ma poche. »
Trop tard, je réponds. L'idée de voir mon fils, sa femme, ses deux enfants, ce beau pays, je prépare déjà les plans dans la tête. Aucun mot ne peut décrire la joie que je ressens. Pas de souci, je respecterai le protocole sanitaire en vigueur à l'automne. J'ai trop envie de voir mon fils. Après une année compliquée, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière sera accompagnée de joie et de bonheur. Je ne pense pas que la vie reprendra tout de suite comme avant. Je pense sincèrement qu'il va falloir regarder comment on traite cette planète. Mais bon, ça c'est un autre sujet de discussion. Lorsque les enfants étaient encore à la maison, je leur disais que le bonheur est le plus important de tout.
Si on est heureux, on peut tout surmonter,
on leur disait. J'ai décidé qu'en 2021, je ne prendrai pas pour acquis la liberté, ma liberté. Même dans les moments les plus sombres, il y a des moments de joie. Il suffit de les trouver, de les reconnaître et d'en profiter. La vie me sourit, si je veux bien. Écoutons Nat King Cole chanter « Smile ».
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Désolée d'apporter de la tristesse dans cette émission, mais comment parler de rire sans avoir une pensée pour Jean-Pierre Bacri qui est décédé le mois dernier? C'était quand même le grognon le plus célèbre de France, capable de déclencher des avalanches de rire avec son air de droupi. Et tout ça fait avec tellement de tendresse. Il devrait être prescrit sur ordonnance, particulièrement dans cette période plutôt morose que nous vivons. Ne boudons pas notre plaisir. Les cinémas sont malheureusement fermés, qu'à cela ne tienne. Bien calés dans notre canapé, savourons un bon petit film avec Jean-Pierre Bacri. Acteur et scénariste, il avait vraiment du talent, même pour faire rire lors d'une avant-première du film Le sens de la fête. Film que je vous ai d'ailleurs déjà conseillé dans une émission précédente.
Et je voulais savoir, est-ce que Jean-Pierre était le premier choix principal de...
Oh non. Et en fait, je pense, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont contacté 17 acteurs. Ils sont allés de leur premier choix.
Et actrices.
Après, ils sont descendus, Manon, Auteuil, Cluzet, tout ça. Et à un moment, ils ont fait complètement égaré. Et quelqu'un leur a dit, et Bacri, ils ont fait un nom. Et alors là, on leur a dit, mais eux, tu vois bien qu'il y en a 15 qui t'ont refusé. Ils disent, d'accord, enfin, Bacri. Et puis, il se trouve que ma mère. Ma mère connaît bien leur mère. Mais complètement par hasard, parce que je ne sais même pas comment elle les a connus. Je trouve que donc elle aura passé un petit coup de fil en disant mais pourquoi
Est-ce qu'il y a mon fils
de si moche. Et bon, ils ont passé le message, tout ça, et ils m'ont. Ensuite, ils m'ont pris. Enfin, je veux dire, j'ai passé des essais. À 8 reprises. J'en ai lu 8 fois parce qu'ils n'étaient pas archi convaincus. Il se trouve que Agnès Jaoui, qui connaissait la tante d'Éric, ça lui a dit vraiment, vous le sous-estimez, je pense qu'il est capable de jouer certains trucs. Parce qu'elle sait bien que je ne peux pas non plus tout jouer. Et là, ils m'ont repris dans un 9e essai. Et il se trouve qu'ils m'ont pris dans une scène que j'ai su jouer, et ils m'ont pris à contre-cœur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai été payé 2 500 € pour tout le film.
D'ailleurs, c'est pas définitif, hein.
Et il voulait penser à me remplacer en 3D, t'as pas ça.
Je vous propose d'écouter maintenant une très belle musique d'Avishai Cohen, issue du film Le sens de la fête. C'est le Wedding Song.
Fable de La Fontaine par Pierre Repp.
Je m'étais promis de vous dire, pour commencer, une très courte fable, une petite fable de La Fontaine que tout le monde connaît, de Fatonlaine, de mon auteur favori, le corbard et le renou. Le rebeau, le barbeau, le cornard, le cornard. On se regarde. Non, j'ai pas voulu. Je vais vous en dire une autre. Toujours de Tafon, toujours de Fat, du même auteur. Le coche et ma louche. Et ma douche. Le moche et sa couche. La couche et une mioche. Non. Oui. Je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez, que je la biouffe, je la bafouille latéralement, je bafouille militairement, je me trompe. J'aime mieux vous le dire franchement, je ne m'attendais pas à avoir, en arrivant, à avoir tant de monde de m'envoi, d'avoir tant de monde là, tout autour de toi, tout autour me doit, autour. Et même dernier roi, même dernier. Merde, C'est pour ça que j'ai la fangue qui lourche. J'ai la langue efficourche. La langue, je peux plus articuler mes mots. Je peux plus articuler mes mots. Je peux plus articuler Arlimu. Je vais vous le dire en anglais. I am stuttering.
Yes.
I am stuttering because I am moon of affection. I am full of emotion, of emotion to see so many people, to see so pineapple, so many people before. J'aurais dû le dire en japonais.
Le projet Génération, c'était un spectacle, et ça le redeviendra, et c'est aujourd'hui une émission radio, et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.